VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Bagassi Koura et Henri Francisque avec vous ce matin.
Au sommaire, en ce mardi 2 février, au Nigeria, le président Goodluck Jonathan a échappé hier à un attentat suicide. Seules les deux femmes kamikazes ont trouvé la mort.
La Cour constitutionnelle du Togo a annoncé que la prochaine présidentielle doit se tenir le 5 mars au plus tard.
Près de 1000. Puisque ce que nous voulons pour que ces élections se déroulent dans la paix, dans la tranquillité, c'est l'effort.
Près de 1000 personnes ont été interpellées en Côte d'Ivoire suite à la vague d'enlèvements et de meurtres d'enfants dans le pays.
En Centrafrique, l'accord de Nairobi continue de faire des vagues.
Tout accord en dehors de Brazzaville est mis venu en avenir. Donc nous devons rester seulement que dans cet esprit-là.
Vous entendrez l'ancien ministre Abakar Sabon et dans moins de 10 minutes, le journal de la CAN avec Nicolas Pineau. Et n'oubliez pas la minute écho en fin d'édition, mais d'abord le journal.
Au Nigeria, le président Goodluck Jonathan a échappé hier à un attentat suicide à la sortie de meeting électoral à Gombe, dans le nord-est du pays. Deux femmes soupçonnées d'être les kamikazes ont péri dans l'explosion qui a fait une vingtaine de blessés. Dans le même temps, le Nigeria a affirmé avoir repris Gamboru et quatre autres villes tenues par Boko Haram grâce à l'appui de milices civiles et des forces tchadiennes et camerounaises. Claire Morin-Gibault.
Suite à trois jours de bombardements sur des positions du groupe islamiste Boko Haram, l'armée nigériane a déclaré avoir repris la ville de Gamboru par le biais de son porte-parole Mike Omeri après une opération conjointe réunissant des milices et des forces militaires de pays amis, a-t-il précisé à l'AFP. Toujours selon le porte-parole de l'armée, d'autres opérations militaires dans le nord-est du Nigeria aurait permis la libération de 11 villes de l'état d'Adamawa, ainsi que de Goujba et Goulani dans l'état de Yobe. 6 zones restent encore sous le contrôle des combattants islamiques dans l'état d'Adamawa. L'offensive multilatérale de ces derniers jours est censée donner un coup de frein à la progression de Boko Haram dans la région, notamment ses incursions au Cameroun. Mais il devrait également avoir un effet sur l'avenir politique du président sortant Goodluck Jonathan, qui devra se battre durement pour être réélu à la présidentielle du 14 février.
Claire Morin-Gibault est toujours au Nigeria. 16 personnes sont mortes et 35 autres blessées lors d'une collision entre un car et un camion dans l'état de Yobe, dans le nord du pays. Selon l'AFP, citant un responsable de sécurité, le conducteur du car qui revenait de la ville de Maïdougouré a perdu le contrôle et a dévié de la route après qu'un de ses pneus a éclaté.
Au Togo, la Cour constitutionnelle a annoncé hier que la prochaine présidentielle doit se tenir le 5 mars prochain au plus tard. Des précisions avec Morgane Guiriec.
La Cour constitutionnelle, siégeant à Lomé, a fait savoir que le scrutin présidentiel doit être ouvert 75 jours au plus tôt et 60 jours au plus tard, avant la fin du mandat actuel du président. Faure Gnassingbé, ayant prêté serment le 4 mai 2010, son mandat prend fin le 3 mai 2015. En conséquence, selon la Haute Cour togolaise, le scrutin doit se tenir au plus tard le 5 mars 2015, dans un peu plus d'un mois. La révision des listes électorales a démarré le 20 janvier et doit prendre fin le 23 février. Mais la constitution togolaise ne prévoit aucune limitation des mandats, ce qui permet au président Faure Gnassingbé de briguer un troisième mandat de 5 ans. En novembre et décembre, l'opposition a manifesté à plusieurs reprises dans l'espoir de barrer la route à ce troisième mandat. Actuellement, les députés débattent d'un projet de réforme proposé par l'opposition sur une limitation du nombre de mandats à la présidence. Un premier projet a déjà été rejeté en juin par le Parlement où le parti au pouvoir est largement majoritaire.
Et près de 1000 personnes ont été interpellées en Côte d'Ivoire suite à la vague d'enlèvements et de meurtres d'enfants dans ce pays. Les précisions de Michel Joseph.
Paul Kofi Kofi, ministre ivoirien de la Défense, précise que les personnes interpellées sont essentiellement des individus qui fréquentaient les cybercafés ou rôdaient autour des écoles. Il a évoqué la piste de cybercriminels, de même qu'une filière de crimes rituels, et appelé la population à demeurer sereine. Depuis mercredi, près de 550 cybercafés ont été fermés, 1500 policiers ont été déployés autour des écoles ou des forêts, lieux privilégiés des crimes rituels. Le directeur général de la police ivoirienne avait annoncé que depuis 3 mois, au moins 25 enfants ont été enlevés, la plupart retrouvés morts et mutilés. Cette vague d'assassinats a créé une psychose dans le pays. Les alertes par SMS se multiplient. Sur les réseaux sociaux, des appels au meurtre, des tueurs d'enfants sont même diffusés. Les rumeurs les plus folles, comme les voleurs de sexe, les disparitions d'albinos, ont toujours circulé dans le pays pendant les années électorales. Un scrutin présidentiel est prévu en Côte d'Ivoire en octobre prochain.
Marie-Thérèse Keita Bokoum, l'experte indépendante sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine, est attendue ce mardi à Bangui. Anne Albertson.
Cette quatrième visite de Marie-Thérèse Keita Bokoum va porter sur l'examen de l'évolution de la situation des droits de l'homme en Centrafrique et la mise en œuvre de ses recommandations, signale un communiqué du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. L'experte, qui restera dans le pays jusqu'au 14 février, estime que la situation en République centrafricaine semble être à la croisée des chemins, avec des initiatives positives, comme le lancement des consultations nationales pour préparer le forum de Bangui sur la réconciliation nationale. Néanmoins, Mme Keita Bokoum reconnaît que la situation sécuritaire reste très précaire, les menaces et exactions persistant, ce qui affecte les droits fondamentaux. Au cours de cette visite, l'experte compte se rendre à l'intérieur du pays pour évaluer la situation des populations ainsi que les conditions de vie des déplacés internes.
Et nouveau gouvernement de coalition en Tunisie, le premier ministre Habib Essib y a inclus des islamistes, des personnalités de tendance laïque ainsi que des représentants de plusieurs petits partis. Le Parlement avait rejeté la semaine dernière son premier gouvernement pour manque de représentativité. Le législateur devrait se prononcer cette semaine sur le nouveau cabinet. On s'attend à ce que ce dernier mette en application les réformes économiques exigées par les bailleurs de fonds internationaux et continue la lutte contre les militants islamistes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis n'ont pas encore décidé s'ils fourniront ou non des armes à l'Ukraine pour l'aider dans sa lutte contre les rebelles soutenus par la Russie. C'est ce qu'a laissé entendre le Département d'État américain hier après la publication par le New York Times d'un article affirmant qu'une telle assistance était à l'étude. Cependant, la porte-parole du Département d'État, Jen Psaki, a souligné que toutes les options étaient envisagées dans les discussions en cours, mais qu'aucune décision n'a encore été prise. Le secrétaire d'État John Kerry sera à Kiev jeudi pour des consultations avec le président ukrainien Petro Poroshenko, entre autres. Pour sa part, Barack Obama recevra la chancelière allemande Angela Merkel lundi prochain à la Maison-Blanche pour des discussions qui porteront, entre autres, sur la situation en Ukraine.
Actualité au Moyen-Orient, nouvelle attaque de drones américains hier au Yémen contre les présumés militants d'Al-Qaïda. C'est la troisième opération de ce genre en une semaine. Au moins 4 djihadistes auraient été tués. Ces attaques font suite aux déclarations du président Barack Obama le mois dernier, soulignant qu'il n'y aurait pas d'interruption dans les opérations anti-islamistes après la prise de la capitale Sanaa par les rebelles houthis et la démission forcée du président pro-occidental Abed Rabo Mansour Hadi.
En Irak, les combattants kurdes ont découvert une fosse commune contenant les dépouilles d'environ 25 yazidis, hommes, femmes et enfants, qui auraient été abattus par les militants de l'État islamique dans le nord-ouest du pays ces derniers mois. Selon les observateurs, les djihadistes ont tué des centaines de membres de cette minorité et réduit en esclavage des centaines de femmes yazidis.
Au lendemain de la libération du journaliste australien Peter Gresty, le Canada a indiqué ce lundi que la fin du calvaire de son collègue égypto-canadien Mohamed Fahmy était imminente. Selon l'AFP, le ministre canadien des Affaires étrangères, John Bird, a confié à la chaîne CBC que la remise en liberté de Fahmy n'était plus qu'une question d'heure. Des propos confirmés par l'agence France Presse citant un porte-parole Adam Hodge. Comme pour Peter Gresty, sorti de prison dimanche, Mohamed Fahmy devrait être expulsé d'Égypte dès sa libération. Ils avaient été arrêtés dans le pays il y a plus d'un an.
Le Qatar est un partenaire contribuant beaucoup à la coalition dirigée par les États-Unis qui se battent contre les militants de l'État islamique en Irak et en Syrie. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire d'État John Kerry en recevant son homologue du Qatar, Khaled Al-Attiyah, hier à Washington. Le chef de la diplomatie américaine a ajouté que les États-Unis apprécient aussi l'aide du Qatar dans la lutte antiterroriste ailleurs au Moyen-Orient, notamment au Yémen.
Et puis pour terminer, le film de Clint Eastwood, American Sniper, nommé dans 6 catégories aux Oscars, s'est maintenu en tête du box-office nord-américain pour sa 6e semaine dans les salles. C'est devenu le film de guerre avec les plus fortes recettes jamais enregistrées aux États-Unis. Tiré de l'autobiographie d'un membre du corps d'élite Navy SEAL, s'est incarné à l'écran par Bradley Cooper en lice pour l'Oscar du meilleur acteur. Le film a récolté 30,7 millions de dollars pour sa 6e semaine de sortie nationale. Et puis maintenant, le journal de la Cannes avec Nicolas Pinon.
Bienvenue à la cantine, bienvenue à Mbolo.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de la Cannes sur VOA Afrique. J-1 pour les Congolais et les Ivoiriens avant la demi-finale. La République démocratique du Congo à 24 heures du rendez-vous face aux Ivoiriens. Le milieu et capitaine des Léopards Youssouf Moulumbu reste incertain pour la demi-finale selon son sélectionneur Florent Ibenge. Le joueur de West Bromwich formé au PSG avait été victime d'un claquage, souvenez-vous, lors du deuxième match de poule face au Cap-Vert. Les Léopards ont poursuivi hier leur préparation à Bata avant le match face aux éléphants. Écoutons Mouini Zaïra, sélectionneur adjoint de la RDC. Il revient sur la préparation physique des Léopards.
Tout d'abord, il faut savoir qu'au niveau des matchs qu'on joue, là, tous les 3-4 jours, il y a un travail de récupération qui s'est fait très approfondi parce que bon, il y a de la fatigue. Ceux qui ne jouent pas, ils travaillent un peu plus. Ils compensent certaines séances pour équilibrer un peu les matchs, hein, c'est-à-dire pour avoir au moins le niveau d'un match. Et ensuite, pour ceux qui jouent, on essaye d'adapter leur travail en fonction de la récupération pour qu'il n'y ait pas de casse derrière, hein, pas de blessures graves. La planification va se faire comme les autres matchs précédents. Donc ça sera un travail à base du jeu. 48 heures avant le match, mardi, c'est la mise en place classique et où on travaille beaucoup d'ivacité pour stimuler le muscle.
Mouini Zaïra, sélectionneur adjoint de la RDC, au micro de Thierry Kambundi de Top Congo, notre partenaire à Kinshasa. Et l'autre demi-finale, Guinée-Équatoriale-Ghana, aura lieu jeudi à Malabo. Après la qualification polémique lors du quart de finale et les critiques contre l'arbitre, les Équato-Guinéens sont remontés contre la Tunisie. Nous allons donner raison aux journaux tunisiens lorsqu'ils parlent de honte. Mais c'est leur sélection qui devrait avoir honte, car d'après le classement FIFA, elle occupe la 22e place et a perdu contre la Guinée équatoriale qui occupe la 118e place. Étant donné cette différence, elle aurait dû gagner 4-0 et ne pas pleurer pour un pénalty douteux. C'est ce qu'on peut lire sous l'égide de l'officiel bureau d'information et de presse de Guinée équatoriale. Sachez aussi que Michel Dussuyer a démissionné de son poste de sélectionneur du Sili National au lendemain de la défaite 3-0 et de l'élimination par le Ghana en quart de finale de la Cannes. Michel Dussuyer dirigeait l'équipe depuis 2010. Rentrés à Ouagadougou depuis une semaine, les étalons devraient connaître des changements majeurs dans les prochains jours. Le Conseil fédéral doit avoir lieu en principe ce vendredi à Bobo-Dioulasso et Paul Put devrait, sauf surprise, quitter ses fonctions. Les explications de Salif Kabore.
Des têtes pourraient tomber dans les tout prochains jours dans le milieu du football burkinabé. Et celles les plus prêtes à frire sont celles de Paul Put, entraîneur des étalons, et Bourema Maïga, consultant de l'équipe nationale burkinabé. En tout cas, avant vendredi prochain, que le sélectionneur Paul Put va déposer son rapport d'après-Cannes sur le bureau du président de la Fédération burkinabé de football. Dans ce rapport, l'élément clé le plus attendu, c'est le pourquoi de l'élimination du Burkina Faso au premier tour de la CAN 2015. Le président Sita Sangaré n'aurait pas du tout apprécié la défaite contre le Gabon, puisque, a-t-il dit à Paul Put, « Là où tu échoues, Claude Leroy réussit. » Et Paul Put de réagir. Ah, Claude Leroy, prochain entraîneur des étalons du Burkina Faso, et Sita Sangaré de lui envoyer une boutarde, c'est une hypothèse à ne pas écarter. Depuis lors, les deux hommes se regardent en chien de faïence. Ensuite, c'est Charles Kabore, le capitaine des étalons, et Sita Sangaré qui auraient eu des échanges pas très agréables. Ce sont donc autant de sujets à discussion à l'heure actuelle. Ouagadougou, Salif Kabore, la voix de l'Amérique.
Merci Salif. Ainsi s'achève ce journal de la Cannes. Prochain point sur la compétition ce soir dans Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur notre site internet voafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagassi Courant, votre compagnie place maintenant au dossier du jour. En Centrafrique, l'accord de Nairobi continue de faire des vagues. Pour l'ancien ministre Abakar Sabone, président du MLCJ, le mouvement de libération des Centrafricains pour la justice, cet accord n'engage que ses signataires. La priorité, selon lui, c'est le forum de Bangui qui doit être une solution à la sortie des crises. Félix Yepassis Zembrou a pu le joindre.
Pour moi, l'accord de Nairobi n'engage que ceux qui sont là-bas, parce que nous sommes restés dans le cadre strict de l'esprit des accords de cessation des hostilités de Brazzaville. Donc tout accord en dehors de Brazzaville est mis le nom à venir. Donc nous devons rester seulement que dans cet esprit-là.
Et qu'attendez-vous des autorités de la transition?
Pour moi, il faut qu'ils s'activent pour que ce forum-là ait lieu le plus rapidement possible, parce que toutes les solutions de sortie de crise pour le retour de la paix, le désarmement, ne résident que dans les recommandations qui seront dégagées au sortir de ce forum de Bangui que nous tous nous attendons. Donc sans ce forum-là, même 1 000 ans, notre pays ne retrouvera jamais la paix, comme nous avons souhaité.
Et vous serez donc partie prenante à ce forum de Bangui, y compris Dodja et Bouzézé?
Bien sûr, la présence de tous est vivement souhaitée, mais on ne peut pas imposer à qui que ce soit de venir ou ne pas venir. Mais l'essentiel, nous sommes 7 millions de population. Hein. Il faut qu'on ait quand même pitié de ce peuple qui a trop souffert. Les politiciens, ils ont d'autres calculs. Mais pour moi, la priorité, c'est la République centrafricaine et le peuple centrafricain. Le peuple a assez souffert et il faut que vraiment on fasse preuve d'honnêteté politique et intellectuelle et de privilégier d'abord l'intérêt du peuple centrafricain. Il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la sécurité, le désarmement. Et tout ça doit se passer seulement pendant ce forum, parce qu'il y aura des recommandations qui seront dégagées.
Abakar Sabone, s'agissant de ce forum de Bangui à venir, il y a certaines factions de l'ex-Séléka qui s'opposent à la présence des membres du gouvernement en ce qui concerne les consultations à la base. Qu'est-ce que vous en dites?
Mais pour moi, la consultation à la base, c'était une perte de temps inutile. La population ne détient pas des armes. Ceux qui détiennent des armes sont alimentés par ceux qui ont signé les accords de cessation des hostilités de Brazzaville. C'est ceux-là qu'il faut les convoquer à Bangui pour assister à ce forum et dire ce qu'ils en pensent. Donc pour moi, il faut que le comité préparatoire de ce forum s'active pour envoyer des invitations à tous les acteurs ciblés et puis de venir à Bangui et puis assister à ce forum pour que la population respire.
Abakar Sabone, président du MLJC, le mouvement de libération des Centrafricains pour la justice.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Le délai semble bien court, mais la Cour constitutionnelle du Togo a annoncé hier que l'élection présidentielle de 2015 devra se tenir entre le 17 février et le 5 mars pour respecter les délais constitutionnels. Cette annonce intervient alors qu'un nouveau projet de réforme de la Constitution proposé par l'opposition est en discussion à l'Assemblée nationale. Et Timothée Donangmaï a recueilli la réaction de Dodji Apevon, président du CAR, le Comité d'action pour le renouveau, parti d'opposition.
Le problème de la date des élections pour nous aujourd'hui, en tout cas pour ce qui concerne le CAR, c'est un événement, puisque ce que nous voulons pour que ces élections se déroulent dans la paix, dans la tranquillité, c'est la réforme. Nous appelons de tous nos voeux faire réforme là pour qu'on n'aille plus à des élections contestées. Or, toutes les bases que nous avons engagées jusqu'à aujourd'hui n'ont pas permis d'avoir ces réformes là. Donc, si c'est une date aujourd'hui, c'est comme si on tourne la page des réformes, ce que nous n'adventons pas. Parce que nous disons, ces élections n'ont pas de sens si les réformes ne sont pas faites.
Selon vous, qu'est-ce qui empêche les réformes que vous exigez d'être mises en œuvre?
Nous avons dit qu'il y a deux courants aujourd'hui dans le pays qui bloquent ces réformes. Il y a d'un côté unir le parti majoritaire au pouvoir, qui ne veulent pas de ces réformes parce qu'ils veulent s'éterniser, eux aussi. Mais il y a un autre courant de l'opposition qui brandit des choses sans pouvoir les faire. Et c'est à cause d'eux que finalement le minimum de consensus qu'on peut avoir pour faire ces réformes-là, on ne l'a pas obtenu jusqu'à aujourd'hui. Les deux deviennent pour nous des alliés objectifs pour maintenir le statu quo.
Donc vous pensez que les prochaines élections ne connaîtront pas la sérénité nécessaire pour que les résultats soient acceptés par tout le monde?
À tout le monde le sait aujourd'hui, sauf si on fait semblant. Le minimum qu'on peut avoir pour une élection transparente, on ne l'a pas aujourd'hui au Togo. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que dans ce siècle-là où tout est lumière autour de nous, on nous parle encore d'une élection uninominale à un seul tour et au Togo, où on ne veut pas limiter le mandat présidentiel, on nous dit, mais allez quand même à des élections, nous ne voulons plus jouer le rôle de figurant. Si on va à une élection, c'est avoir un minimum de chances de les gagner. Y aller parce qu'on dit, oui, il ne faut pas nous écouter, ça qui ne peut pas y aller, nous pensons que ce n'est pas sérieux.
Voilà, c'était Dodji Apepon, président du CAR, le Comité d'action pour le renouveau, joint à Lomé.
La Voix de l'Amérique au Togo, sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
On n'a pas encore commencé à l'exploiter, hein, mais il suscite déjà des remous au Kenya. La découverte du pétrole en 2012 dans le comté de Turkana, dans le nord du pays, a envenimé les relations entre les deux groupes ethniques vivant dans cette région. Les actes de violence, souvent meurtriers, se multiplient entre les Turkana et leurs voisins Poko. L'or noir est venu s'ajouter à la lutte pour la terre et l'eau qui déchire les deux communautés depuis des siècles. La correspondante de la VOA, Jessica Hatcher, s'est rendue dans le sud de ce comté kenyan. Son reportage est présenté ici par Jacques Aristide.
Aux premières lueurs du jour, une réunion quotidienne, celle des éleveurs de la communauté Turkana. Unique thème à l'ordre du jour, la sécurité. Le berger Losinio Kokotol est le chef des opérations.
Le conflit avec les Poko a atteint son apogée. Par le passé, il n'y avait que des vols de bétail. Mais maintenant, ils attaquent les villages et forcent les gens à partir.
L'enjeu du pétrole ne favorise pas les pourparlers de paix entre les deux tribus, selon le prêtre kényan Nicolas Kimedjoff.
Les dirigeants politiques ont dit aux Poko que s'ils se battent pour eux, ils vont faire partir les Turkana jusqu'à Lokichar, parce que leur objectif est clair, c'est de prendre possession des puits de pétrole, d'en faire leur propriété pour en avoir le monopole afin de se faire de l'argent.
Des villages entiers ont été réduits en cendres et des civils non armés tués. À l'image de Lokwar, un village prospère, doté d'une école primaire, mais complètement détruit l'année dernière. Les habitants ont été interdits d'y revenir, d'après Paul Idoket Ekitela, un enseignant.
Because that person was killed.
Ce que vous voyez, ce sont les villageois qu'on a enterrés ici. Une personne qui a été tuée, qui n'était pourtant pas venue ici pour se battre, mais que pour travailler sa ferme.
La destruction de villages est un fait nouveau dans le vieux conflit tribal entre les Poko et les Turkana. Ils ont recours aux incendies pour créer la peur et faire fuir les gens. Prise dans cette guerre ethnique, la compagnie d'exploration de pétrole anglo-irlandaise, Tull Oil, affirme avoir identifié quelque 600 millions de barils de pétrole dans le comté de Turkana. Mais le chiffre d'un milliard de barils au total est envisageable. Toutefois, en raison du conflit, les firmes pétrolières ont des difficultés à opérer, d'après Andy Demetriou de Tull Oil.
Les gens vivent de leur terre, comme ils le font depuis des centaines d'années dans la plupart des cas. D'importantes sociétés débarquent ici avec leur technologie et tentent de travailler avec les communautés pastorales. Il y aura toujours des défis à relever. Il y aura toujours des points de désaccord.
Malgré ses richesses naturelles, Turkana est la région la plus pauvre au Kenya. Des humanitaires croient que le pétrole est une occasion en or pour développer le comté, mais craignent que le gouvernement de Nairobi écarte les communautés locales de son exploitation. Opinion partagée par le militant Lopeyoc Ricardo Simeon.
Le gouvernement prétend que tout ce qui est sous terre lui appartient, ce qui est vrai. Mais nous avons aussi besoin d'être consultés. Nous sommes les propriétaires de ces terres. Nous voulons aussi être impliqués dans ce processus.
Alors que la valeur de cette terre s'accroît, l'envie de la contrôler prend de l'ampleur également. D'aucuns sont d'avis que si le conflit ethnique n'est pas résolu, l'or noir de Turkana s'avérerait une malédiction plutôt qu'une bénédiction.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Le président Barack Obama a envoyé hier au Congrès son projet de budget 2016 d'un montant de 4 000 milliards de dollars. Il se propose de le financer par l'augmentation des impôts des plus nantis, une taxe sur les bénéfices accumulés par les compagnies américaines à l'étranger, ainsi que la suppression des coupes budgétaires automatiques. Et ce n'est pas vraiment une surprise, hein. Les républicains qui contrôlent les deux chambres du Congrès jugent ce budget coûteux et rejette toute augmentation d'impôts. Chérubin Dorcy l'a joint l'économiste Pierre-Marie Boisson à Miami.
C'est un projet de budget qui
doit être analysé en regard de l'échéance électorale prochaine, essentiellement l'élection présidentielle américaine qui aura lieu en novembre 2016. Or, ce qui se trouve dominer l'actualité actuellement en matière économique, c'est que le président Obama est aujourd'hui crédité d'un succès très important. La création d'emplois est à son plus haut niveau. Le chômage est actuellement à 5,6%. Si on regarde le comportement des marchés, le comportement de l'économie américaine en général, enfin du produit intérieur brut, de la croissance, tous les indicateurs sont au beau fixe. Donc, M. Obama va certainement passer cette performance-là comme label aux démocrates.
Sommes-nous en train d'assister seulement à un jeu politique, le président voulant peut-être établir les lignes de démarcation de la campagne de 2016?
Je crois que c'est principalement ça. Maintenant, il ne faut pas écarter le fait qu'un président qui est à son deuxième mandat, comme c'est le cas de Barack Obama, veut aussi laisser un héritage. Donc, il veut quand même montrer qu'il a demandé, même s'il n'a pas obtenu, mais qu'il a demandé des relèvements de dépenses, enfin des actions concrètes pour améliorer le sort des classes moyennes. La mauvaise répartition des richesses frappe d'abord les classes moyennes. Il y aura toujours beaucoup de pauvres dans n'importe quel pays du monde, et notamment aux États-Unis. Mais l'idée, la philosophie américaine, c'est d'établir une mobilité sociale de façon à ce que les pauvres deviennent non pas riches, mais rentrent dans les classes moyennes, et que les classes moyennes elles-mêmes aient une meilleure part de la croissance économique.
Et vous relevez ce point dans le projet de budget du président Obama?
Barack Obama veut à la fois léguer à l'histoire une action volontariste pour justement améliorer le sort des classes moyennes. Barack Obama a réussi déjà à baisser le déficit budgétaire, donc il ne veut pas le réaugmenter. Donc pour ne pas le réaugmenter, sa philosophie classique, qui est la philosophie des démocrates, c'est de dire, bon écoutez, il y a une injustice fiscale très importante aux États-Unis, c'est-à-dire que les gens les plus riches et aussi les gens qui dépassent un certain niveau, des gens qui gagnent par exemple plus que 500 000 $ par an, ils ne sont pas suffisamment taxés et que s'ils étaient davantage taxés, ça permettrait de financer tous ces programmes de relèvement du niveau de vie de classe moyenne.
Dans le climat politique actuel entre démocrates et républicains, quelles sont les chances d'un tel budget? Est-ce que c'est simplement un exercice politique?
Vu par la plupart des analystes aujourd'hui, c'est un exercice politique. Les chances qu'un budget pareil passe sont quasiment nulles.
Voilà l'économiste Pierre-Marie Boisson, joint à Miami. La Minute Éco, l'actualité économique en Afrique et ailleurs. Avec nous ce matin, Jean-Roger Bion. Bonjour Jean-Roger.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
On en parlait déjà la semaine dernière. La Chine et l'Union africaine veulent lancer un projet pharaonique destiné à relier les capitales africaines.
Un accord a été signé le 27 janvier à Addis Abeba et le projet va porter sur des infrastructures telles que les routes et des trains à grande vitesse ainsi qu'une plus grande toile de desserte aérienne. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, et le vice-ministre des Affaires étrangères chinois, Zhang Ming, ont paraphé ce mémorandum d'entente qui se situe dans le cadre de la réalisation de l'agenda 2063 établi par l'Union africaine et qui vise à faire bâtir une Afrique intégrée et prospère à cette date.
En RDC, le gouvernement est en campagne pour la consommation des produits locaux.
La campagne a atteint son point d'orgue la semaine dernière avec la tournée du ministre de l'Industrie dans les entreprises du pays pour leur expliquer l'intérêt qu'il y a à consommer le Made in Congo. Ces entreprises ont pris le ministre au mot et dénoncé la concurrence déloyale des produits étrangers bénéficiant d'exonérations incontrôlées et l'asphyxie fiscale dont elles se disent victimes. Le ministre a promis un changement.
Nous allons prendre en compte cela. Les instructions très fermes du Premier ministre ont été données pour l'élargissement d'une coopération mutuellement avantageuse entre les opérateurs économiques à travers le cadre de concertation économique et les différents ministères concernés. Donc rassurez-vous, de ce point de vue, vous allez constater très rapidement une évolution des choses.
Germain Kabinga, ministre congolais de l'Industrie, au micro de nos confrères de Radio Okapi.
Et puis Bill Gates lance une nouvelle initiative agricole en faveur de 192 000 ménages est-africains.
Il s'agit de lutter contre l'insécurité alimentaire grâce à la culture de la patate douce et de la banane plantain. L'initiative est portée par la Fondation Bill et Melinda Gates. Elle prend en compte trois pays, la Tanzanie, l'Ouganda et l'Éthiopie.
Merci Jean-Roger. Voilà, c'était la Minute Éco. Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Anne Albertson était à la production et John Ellison était à la console technique. Un grand merci à toute la rédaction de La Voix de l'Amérique. C'était Bagassi Koro au micro. Je vous souhaite une excellente journée.